Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30 précisément, donc je prends la parole quelques secondes histoire de voilà. S'il y a quelques retardataires, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous entre midi et science. Aujourd'hui, nous nous recentrons un peu plus sur nos sujets de prédilection, notamment vous parlez de transition. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'énergie solaire avec une approche un petit peu particulière puisqu'on va partir un petit peu des origines. On va s'intéresser un peu à l'histoire des sciences, à l'histoire de cette utilisation parce que quand on parle d'énergie solaire, on pense panneaux solaires. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Et au niveau historique, y a-t-il d'autres embranchements, d'autres pistes qui ont été creusées? Voilà toutes les questions que nous avions envie d'explorer avec notre invité, Frédéric Caille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc en sciences politiques. Voilà, donc on fait un petit décalage par rapport aux sciences pures et dures. Merci d'avoir répondu à cette invitation et surtout voilà, de vouloir répondre à toutes nos questions. Il s'agit d'un café débat. Pour ceux qui ne connaissent pas notre fonctionnement, eh bien, l'idée c'est d'avoir une demi-heure pour nous exposer un petit peu le sujet, les tenants et aboutissants. Et on gardera l'autre demi-heure justement pour échanger avec vous et éventuellement voir de débattre. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation et sans plus attendre, je vous passe la parole.
Allô. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Moi, je vous propose n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fil de la présentation. J'ai prévu évidemment extrêmement long. Je suis un enseignant chercheur. Je vais donc être très peu concis. Je vous prie de m'en excuser. Puis j'ai surtout beaucoup trop de choses à vous dire. C'est un peu le problème. En effet. Alors, je vais voir déjà si ça marche. Ah, là, on est à la fin. Ah, voilà, oui. Donc, j'ai quand même prévu une structuration, oui, pardon, un petit peu du propos. Je propose, je vais me présenter rapidement et quand même un peu présenter dans quelle perspective. Moi, je travaille sur l'énergie solaire. Je évoquerai un peu les types de blocages et pourquoi. Voilà. Je rappellerai quand même ce que c'est un peu l'énergie solaire, rapidement les modes de conversion principaux. Puis, on parlera justement de précurseurs, très rapidement, les CITRA. Ensuite, je vais me concentrer sur ce qui avait été proposé un peu par Jean-Yves et par la galerie Eureka, c'est-à-dire l'énergie solaire, la solution. Bon, je vais dire pourquoi le point d'interrogation, il faut le barrer et il n'y a pas de point d'interrogation du tout, à mon avis. Donc, j'amènerai un certain nombre d'éléments de preuve. Je ne vais pas tous les amener, mais je vais vous dire que, bon, combien il est facile de s'en convaincre aujourd'hui si on sait un peu regarder Internet et combien il y a énormément de gens qui le disent. Et puis, je reviendrai peut-être si on a un peu de temps quand même rapidement sur mes travaux spécifiques. Bon, d'abord quand même, parce que je parle un tout petit peu de principales réalisations ces dernières années. Donc, un livre sur l'histoire d'Augustin Mouchot. Donc, peut-être vous ne connaissez pas, mais vous allez connaître, ou vos enfants, petits-enfants plutôt, connaîtront sans aucun doute, car il sera dans tous les manuels scolaires un jour ou l'autre. Il va l'être, c'est évident, car il est le grand précurseur mondial de l'énergie solaire, Augustin Mouchot. Et puis, on dira un mot, il y a aussi Becquerel, mais bon, on en dira un mot. Et puis, j'évoquerai, alors là peut-être on aura moins de temps, mais quand même un peu des réalisations qui ont été faites dans les années 60, notamment en Afrique. Ça nous permettra, si vous le voulez, ou si vous avez des questions, de parler d'autres modes de conversion, d'autres de rapports que le photovoltaïque, notamment la cuisson solaire, notamment le thermique solaire. Bon, enfin, vous voyez, on a beaucoup de choses à voir. Donc, très rapidement, moi, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages de recherche à la fois. Bon, je travaille un peu au Sénégal. Et puis, je me suis intéressé, on en dira un mot, à des précurseurs, donc notamment Abdou Moumouni Diofou, précurseur nigérien de l'énergie solaire, qui, dès les années 60, donc, a été un grand chercheur. Donc, là, l'université de Niamey porte le nom... Zut. Au Niger, aussi d'autres précurseurs comme Amulyaka N. Reddy, un indien, chercheur indien très connu mondialement, mais dont là, vous trouvez ça gratuitement, ce sont des livres publiés par les éditions Sciences et Biens communs qui sont au Québec, donc vous pouvez les télécharger gratuitement, ils sont mis à disposition. Et c'est la première traduction d'un choix de texte d'Amulyaka N. Reddy, qui était un précurseur des technologies adaptées, comme on appelait cela à l'époque, c'est-à-dire de techniques adapté aux pays des Sud et aux besoins des pays, notamment encore ruraux, qui n'étaient pas des pays industrialisés. Bon, perspective dans le domaine énergétique qui est très importante, mais complètement laissé de côté aujourd'hui, il faut le reconnaître, hein, puisqu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans une vision, on va équiper l'Afrique comme si elle allait devenir New York. Bon, chacun peut avoir, voilà, on peut en débattre, on pourra poser des questions là-dessus. Voilà, bon, donc, et aussi donc, le livre Augustin Bouchot, bien sûr. Donc, moi, mon travail s'inscrit, pour aller très vite, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais dans un courant qui est encore assez méconnu, voire complètement méconnu en France, ça s'appelle les Energy Humanities, ou Humanité énergétique, si on veut traduire. Donc, sont essentiellement des chercheurs nord-américains, notamment canadiens, qui ont développé une approche. Voilà, on peut la résumer comme ça en disant que c'est quand même une approche qui vise, au départ, ils travaillaient surtout sur la pétroculture, comme ils disaient en anglais, vise à déconstruire, à réfléchir sur les fondements scientifiques, mais aussi imaginaires, mentaux, hein, les inconscients qui font que nous sommes aujourd'hui dans une civilisation. Donc la principale caractéristique, on peut dire, c'est qu'elle est une civilisation pétro-fossile. Hein, bon, alors, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup documenté cela. Par exemple, même si on s'amuse à rechercher les œuvres d'art, les films qui parlent du pétrole, il y en a très peu, hein, finalement, et surtout qui montrent la réalité de ce qu'est l'exploitation pétrolière, il y en a très très peu, mais pour des raisons là, Hollywood n'a pas trop envie, donc à part le film sur l'incendie de la plateforme pétrolière, il y en a très peu, parce que la grande industrie aussi cinématographique ne veut pas toucher à ça, parce que si vous faites des tableaux comme celui-là, vous risquez de ne plus jamais être exposé ni au Louvre, ni dans beaucoup des grands musées occidentaux. Pourquoi ? Parce que le Louvre, vous le savez, bon, ça a été révélé et financé en partie par Total, et c'est pareil à Londres, c'est pareil au Canada. Si vous êtes un artiste contemporain, je vous dis tout de suite, ne touchez pas à l'énergie, parce que là, vous n'allez pas faire une grande carrière. Faites des petits bonhommes, faites ce que vous voulez. Non, mais il faut être sérieux, c'est vrai, ça a été aussi pas mal documenté, pas mal analysé dans le monde anglo-saxon. Donc tout ça nous amène... Bon, à des types, pourquoi ? Donc finalement, on peut peut-être dire qu'il y a quand même trois types de blocages aujourd'hui face à l'énergie solaire qui vont... Des blocages donc technologiques, a priori, on peut se dire, ah, l'énergie solaire, c'est difficile à capter, ça. Bon, là, je vais montrer et rappeler qu'aujourd'hui, c'est fini. Donc toute personne qui dirait le contraire dit quelque chose qui est faux. Là, les preuves scientifiques sont là. Bon, je vais vous en amener quelques-unes. Donc on peut la capter, l'utiliser. Alors bien sûr, elle est intermittente, mais on peut aussi la stocker, enfin... Aujourd'hui, on a les solutions, mais il y a d'autres blocages, ceux que j'ai déjà commencé un petit peu à évoquer, qui sont peut-être plus psychologiques et culturels, pour parler vite. Donc, au point de vue des imaginaires techniques, on en dira peut-être un mot. Évidemment, si on compare tout à un moteur thermique, si on compare toute forme de pompage, je ne sais pas, à un groupe électrogène au diesel, évidemment, on fausse un peu la comparaison, parce que le pétrole, les énergies fossiles ont certains avantages, c'est leur concentration, leur facilité de transport d'une certaine manière, mais surtout leur extrême concentration. Par contre, elles en ont d'autres, des avantages que vous connaissez, le rejet de CO2, la pollution, etc. Et aussi leur appropriation, disons. Mais souvent, on ne les met pas ensemble et ça, on va le voir... Cela dévalorise beaucoup l'énergie solaire qui a, malgré tout, pourtant énormément d'éléments favorables à montrer. Alors, donc ça touche à une épistémologie aussi, aux questions de rendement. Je ne rentrerai peut-être pas là-dedans, mais je peux répondre à des questions si vous le voulez. Dès qu'on parle rendement aussi, voilà, bon, il faut faire très attention à ce qu'on veut dire par là, parce que le rendement pur du solaire, effectivement, que ce soit en photovoltaïque ou en thermodynamique, est faible. Dans l'absolu, si vous voulez, le taux de conversion est faible. Mais comme la source est éternelle, gratuite, très abondante, en fait, la question du rendement, normalement, on ne devrait pas la poser. Mais c'est bien sûr le gros argument technique pour dévaloriser le solaire. Ah, oh, mais ça n'a que 30% de rendement. Et alors, même si ça n'en a que 5, le soleil est gratuit et tombe tous les jours. Quel est le problème ? C'est qu'une question ensuite d'espace, de place, pour placer vos modes de conversion. Mais en fait, normalement, vous ne devriez jamais discuter de rendement. Mais ça, bien sûr, toute la thermodynamique venue du fossile a fait, depuis un siècle, en sorte d'éviter, bien que d'autres, des spécialistes du solaire l'ont dit, mais elle a fait en sorte d'éviter que ce soit enseigné dans les cours de physique et que, voilà, on reste à réfléchir toujours en rendement et on dit « Ah, le solaire n'a pas bien du rendement ». On va voir que dans le thermodynamique, c'est faux aussi aujourd'hui, par contre. Mais bon, passons. Donc voilà, ça touche aussi aux enseignements, aux arts, comme là, je viens déjà de l'évoquer. Il y a aussi quand même tout un problème. Effectivement, le solaire, ben, vous, on ne connaît pas Augustin Mouchot. On va au musée des arts et métiers, il y a à peine un mini panneau photowatt qui est présenté. Il n'y a quasiment qu'une maquette d'éolienne. Bon, il y a plein de choses comme ça qui sont... Bon, j'ai travaillé pas mal avec le musée des arts et métiers. Je me suis battu pour qu'il fasse rentrer le solaire. Je n'y arrive pas encore tout à fait. Ils me disent, nous sommes là pour montrer ce qui a existé, pas ce qui aurait pu exister. Je leur dis, non, c'est faux. Ça a existé, des fours solaires, ça a existé. Peut-être qu'ils ne sont pas massifs en France, mais c'est quand même une filière technologique qui existe depuis 150 ans. Vous avez un four Mouchot, vous devriez le montrer, mais... Bon, ils ont aussi des financeurs, ils ont aussi un ministère, ils ont une tutelle. Je vous rappelle, les dernières expositions qu'ils ont faites, elles sont sponsorisées par Total. Là aussi, je n'invente rien. Hein. C'était l'essence de l'art. Leur dernière exposition au musée du CNAB avec une pompe à essence, une vieille pompe des années 50. C'est sympa. Moi, j'aime bien James Dean aussi. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre imagerie à montrer, peut-être plus urgente que revenir là-dessus. Mais, ils avaient bien sûr des moteurs qui étaient prêtés par Renault, tout ça. Oui, là, bon... Alors quand vous vous ramenez comme moi à vous dire « Ah, faut mettre des fours solaires », ils vous répondent « Monsieur, voilà, ils me rigolent. » Enfin, ils ont du mal à l'entendre, mais ça évolue peut-être, ou ça va évoluer, je pense, dans le temps. Et puis, il y a un troisième donc, type de blocage que je viens aussi à nouveau déjà de presse d'évoquer, mais qui sont les blocages qu'on peut dire plus politiques. Tout ce qui touche, bien sûr, au fait que les énergies en général, bon, ça touche à des citoyennetés, à des questions de citoyenneté énergétique, de gouvernance. La démocratie, c'est pas nous qui décidons souvent des choix énergétique, vous le savez, et puis de la géopolitique, parce que bon, là, on va en parler très peu, mais enfin, on doit en parler. Pourquoi ? Parce que le solaire, évidemment, ça fait 150 ans que les premiers, comme Augustin Mouchot et ses comparses, ont dit dans l'avenir, les pays les plus industrialisés, quand le charbon se sera épuisé, pourraient être les pays du soleil. C'est-à-dire qu'eux, ils anticipaient une migration des industries vers le Sahara, par exemple, où là, l'énergie est abondante, peut-être pas tout à fait tous les jours, mais quasiment, elle est gratuite, elle était non polluante. Bon, bah, donc là, on tombe sur une géopolitique. Et est-ce que nos pays ont tellement envie que les pays des Sud et les plus ensoleillés deviennent ceux qui disposent de ces ressources? Bon, voilà, je vous renverrai à beaucoup de travaux sur la manière dont les énergies fossiles sont exploitées dans le monde, vous le savez. Elles sont dans certains pays, mais elles sont exploitées par nos pays, hein, par les pays les plus développés. Vous connaissez les majors du pétrole. Vous savez que Total est une société qui permet à la France d'assurer sa sécurité énergétique, comme on le dit. Donc elle était d'État, elle est moyennement d'État aujourd'hui. Elle est soutenue par l'État, par nos services secrets. Enfin, nous ne sommes pas le seul. Tous les pays occidentaux sont sur ce modèle. Hein. Donc au nom de la sécurité, voilà. Tout ça pour dire que, vous voyez que... Alors, je rentre... Voilà, là, on peut réfléchir longtemps sur tout ça. Voilà. Alors, quand même, j'ai peut-être trop anticipé des questions, mais vous pouvez y revenir, vous pouvez m'arrêter. Je me suis dit qu'il fallait quand même tout de suite... Enfin, ça, j'aurais peut-être... Je l'ai rajouté ce matin, peut-être j'aurais pas dit. À mon avis, il y a deux écueils aujourd'hui quand on réfléchit sur l'énergie solaire, quand même. Quand j'entends les débats dans les médias, etc. D'un côté... Il y a des gens qui soutiennent un technosolutionnisme. Bon, tous les gens qui vont dire la vie, c'est du risque, il faut accepter le risque. De toute façon, on va trouver des solutions, on va capter le carbone. Bon, on va faire grâce à l'hydrogène, etc. Alors, pour les gens qui sont plus dans la mouvance environnementale, souvent, c'est le mot, c'est des technosolutionnistes. Ça va contribuer à créer une pression sur la planète énorme et ça va nous amener dans le mur. Bon, c'est vrai que cette solution, il faut s'en méfier. Il y a une autre position qui est plutôt celle d'un certain nombre d'environnementalistes aujourd'hui. La transition, c'est impossible. Il y a un monsieur qui a pas mal de succès actuellement, un de mes collègues chercheurs, qui soutient ça. Moi, je ne comprends pas d'où il peut soutenir ça. Donc lui, c'est la décroissance ou la mort, il n'y a pas de solution. C'est même maintenant très à la mode dans l'université de dire « la transition, c'est un faux discours pour que le capital... Bon. » Oui, je suis d'accord en partie. C'est vrai que c'est en partie quelque chose qui permet, on le sait, du greenwashing, qui permet un capitalisme vert. Mais il n'empêche qu'il est absolument nécessaire que nous sortions des énergies fossiles. Il n'y a même pas le début d'un débat là-dessus. Enfin, c'est vital et ça devrait être immédiat. En fait, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que ça serait possible. Si demain, tous les États du monde disaient « c'est fini le pétrole, sauf pour les avions de chasse et pour la guerre », parce que là, je pense que la substitution, ça va être beaucoup plus long et ça ne viendra peut-être jamais. Eh bien, moi, je suis absolument convaincu que le monde continuerait, que nos États continueraient. Ce serait inférieur à ce que le Covid a imposé aux pays occidentaux. Et on a vu qu'en fait, rien ne s'est vraiment écroulé, qu'en fait, des solutions apparaissaient très vite au bout d'un mois. Et quand on connaît la technologie des énergies renouvelables, on peut être convaincu que si on y était forcé, je pense quand même pas 5 ans, presque une grande partie des choses repartirait, un peu différemment, mais repartirait. Et on conserverait le pétrole uniquement pour les appareils médicaux, pour fabriquer certains médicaments, et on arrêterait de rejeter du CO2. Donc ça, si la décision pouvait être prise, elle le serait. Voilà. Tous les gens qui disent autre chose, bon, c'est qu'ils ne connaissent pas le dossier. C'est pas moi, je vais vous amener... Beaucoup de gens ont calculé ça, ont prouvé par des scénarios, mais on ne les entend pas parce qu'ils sont invisibles. Invisibles sur Internet, invisibles dans les médias. Personne ne les invite. Alors, oui, je sais. Je sais ce que vous pensez, certains. Parce que je suis intervenu devant des collègues physiciens il y a une semaine et on m'a tout de suite dit que j'avais. M'accusait d'être quasiment dans la théorie du complot. Non, je précise, je ne le suis pas du tout, mais je suis un politiste et je pense que les personnes qui ne regardent pas en face la réalité des rapports de force, c'est eux qui nous racontent des histoires. C'est pas être dans la théorie du complot que de dire que Total met tout son argent, met énormément de moyens de communication pour contrer la transition, la retarder au maximum. Exactement comme les fabricants de cigarettes l'ont fait, hein, vous le savez, vous connaissez ça. Bon, ça, c'est prouvé, je sais pas. Alors évidemment, quand je vous dis ça à vous, je sais d'avance que je passerai plus jamais sur TF1, j'y suis jamais passé, donc ça risque rien, et dans des grands médias. Parce que dire cela, effectivement, mais bon, comme je n'y passe pas, je n'ai pas grand risque. Enfin, et puis même, je pense que c'est mon travail d'enseignant-chercheur est de dire, de proposer en tout cas une interprétation. Donc, quelle serait la réponse ou la position entre ces deux extrêmes qu'il faut peut-être éviter, ni être dans le technosolutionnisme, ni dans une vision on ne peut plus rien faire, c'est la fin de l'humanité, etc. Ben, moi, je crois que la réponse que je vous propose un peu d'explorer, c'est premièrement, de se convaincre et de regarder, d'observer qu'il existe des solutions énergétiques alternatives. Ça ne veut pas dire qu'elles permettent de vivre tout à fait dans la même société. Ça demande peut-être, oui, certaines formes d'économie, mais là aussi, on peut se rassurer. Si vous savez peut-être que depuis même pas 10 ans, hein, les voitures ont diminué en 5 ans, là, je crois, de 40% à Paris. Donc, par exemple, ça, personne ne l'avait prévu. Hein, l'essor du vélo électrique, ça bouleverse toutes les grandes villes actuellement. Et Paris particulièrement, ça va au-delà de ce que la municipalité ne souhaite. Là, je lisais encore, c'est l'année dernière, hein, il y a des avenues, il n'y a plus que des vélos. Même là, donc, vous voyez, quand il y a des... Donc, je pense qu'on pourrait... On peut se rassurer quand même et se croire qu'il y a aussi des choses qui peuvent se passer. Hein, on voit dans plein de villes. Et puis, mais... Quand on, voilà, il existe des solutions, mais c'est là qu'on retombe sur ma théorie. Enfin, ma mise en garde, il existe aussi des forces sociales, politiques, culturelles considérables qui s'opposent à ces solutions. Je crois qu'il faut malheureusement tenir les deux choses, car sinon on est vraiment trop naïf, et sinon, bon, on raconte des choses. Voilà. Donc moi, les deux pistes de travail que j'ai explorées, c'est d'un côté, on évoquera rapidement l'histoire scientifique et socio-technique des solutions alternatives. Je l'ai déjà dit, ces solutions existent depuis longtemps. Augustin Mouchot est un exemple, mais je vais même en citer d'autres, il y en aurait plein d'autres. Car, bon, moi, je vais parler surtout du solaire, même si j'y inclus l'éolien, mais je vais citer Philippe Bruyère, qui est un grand spécialiste, qui a fait une thèse sur le... On pourrait faire la même démonstration sur l'éolien. On pourrait vous parler des énergies houlomotrices, l'énergie de la houle. Hein. On pourrait parler même un peu des bioénergies. Amolia Kainredi est un spécialiste du biogaz, avant qu'on appelle ça méthanisation. Bon, enfin, dans beaucoup d'énergies alternatives, on trouvera des précurseurs qui sont souvent oubliés, des solutions qui seraient possibles, toujours en n'oubliant pas, bien sûr, qu'avec ces solutions... On n'aboutit pas nécessairement à Shanghai aujourd'hui, ou à Hong Kong, ou à New York moderne, puisque nécessairement ce sont des formes d'énergie quand même moins concentrées. Les mégapoles actuelles, les plus modernes, elles posent d'autres problèmes d'approvisionnement énergétique, mais c'est aussi un choix d'urbanisation. Hein. Donc vous voyez, bon, ça c'est sûr, si vous me dites avec du biogaz on ne va pas alimenter New York, ben ça tout le monde va vous répondre oui, effectivement, non, ça, ni avec l'énergie houlomotrice. Hein. Ce sera un autre New York. Voilà, c'est juste ça. Bon. Ensuite, l'histoire des énergies, je reviens un peu là-dessus, est une histoire politique. C'est-à-dire quand même, toujours dans cette piste de travail, il faut garder à l'esprit que c'est une histoire de pouvoir, de volonté de maîtrise des populations. Je crois que là, sur le nucléaire, je ne vais pas trop m'y engager, mais je donnerai quelques... Voilà. De maîtrise des autres États aussi. puisque bien sûr, quand vous arrivez avec l'énergie nucléaire, les seuls pays qui la maîtrisent, bon, on les connaît, hein. Et avant que des pays africains maîtrisent l'énergie nucléaire, je veux dire, bon, je pense qu'il y aura plusieurs générations qui seront écoulées sans être méchants, quoi. Enfin, c'est une évidence, tout le monde le sait. Donc c'est bien pour ça que si vous la proposez, vous êtes sûr de garder la maîtrise technologique, donc la maîtrise politique du développement de ces États. Et si vous leur en vendez, ça y est, ils se sont liés les mains pour un siècle, à peu près, ou pour 50 ans, au minimum, puisqu'il faudra qu'ils entretiennent leur centrale avec votre aide ou avec celle des Russes, des Américains. Enfin, il y a 5 pays, 4 ou 5, qui maîtrisent ces technologies. Sans parler du combustible, hein, bien sûr. Pose d'autres problèmes. Mais voilà. Avec le solaire, c'est l'inverse. Vous leur donnez l'autonomie tout de suite. Et là, bon ben là, après, vous en aurez plus ce moyen de discussion. Donc, ça peut... Ça, voilà, ça interroge... Voilà, en anglais, je ne fais pas la démonstration, mais il faut, quand on lit mes collègues anglo-saxons, eux, effectivement, ils ont une facilité, c'est que le mot « power » en anglais leur permet de jouer sur l'homonymie, la synonymie, la puissance politique et la puissance énergétique. Hein, c'est plus qu'en français, bon, même si le mot « puissance » fonctionne un peu, « power » dans la langue anglaise permet tout de suite de comprendre que c'est à la fois une relation d'énergétique et une relation de pouvoir. Et quand on les lit, on voit que... Voilà. Mais... Voilà, je l'avais déjà dit, je pense que... Bon, alors là, on va me dire que je plaide pour mon sujet de recherche, mais c'est vrai, j'en suis convaincu. L'énergie, les questions d'énergie sont la réalité la plus structurante aujourd'hui de notre civilisation, de notre état du monde. Ça, ce sont mes collègues quand même des énergies humanitistes qui le disent. Les énergies humanitistes, si vous voulez, c'est une sous-branche des environmental humanitistes, des gens qui travaillent sur les questions environnementales en général. Mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui... Quand j'entends des gens parler d'environnement qui ne prononcent pas le mot énergie... Je considère qu'ils sont en partie en dehors du sujet. C'est comme si vous me parlez d'environnement sans prononcer le mot climat. Alors climat, on le prononce, mais quand on parle du climat sans parler d'énergie, vous savez que le GIEC était obligé pendant longtemps, il n'avait pas le droit de parler des solutions alternatives. Bon, ben en fait, on ment un peu. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie solaire? Je vais très vite. L'énergie solaire, vous le savez, je pense, mais je voulais quand même le rappeler, elle peut être utilisée de manière thermique. Donc c'est la chaleur, dans l'habitat, dans l'industrie, c'est la cuisson solaire. Elle peut être utilisée de manière thermodynamique. On en dira un mot, il y a différents procédés d'échange. Mais là, soit on va dire Augustin Mouchot, lui, il a fait le plus simple, c'est qu'il a créé de la vapeur. Il est le premier à faire fonctionner un moteur à vapeur solaire, que moi j'appelle un moteur sans combustible, puisqu'en fait c'est le premier moteur sans combustible. Et ensuite, on peut faire ça aujourd'hui avec de l'ammoniac qui fait l'échangeur. C'est l'inverse d'un frigo. Vous chauffez de l'ammoniac au soleil, vous avez un rendement qui est extrêmement bon, hein, extrêmement fort. Bah, si vous mettez cet ammoniac près d'une machine, vous récupérez la chaleur. C'est ce qu'on appelle récupération de la chaleur. C'est la même filière technique, ce sont les mêmes technologies. Elles sont connues depuis 150 ans, elles ont été développées par différentes personnes. Ils ont chaque fois cru qu'ils avaient la solution, mais ils ont été ignorés, souvent oubliés un peu. Voilà. Donc on peut faire soit de la force, puisque vous avez un moteur, soit de l'électricité si vous mettez un alternateur. Donc vous voyez le thermodynamique. Et puis, donc, néanmoins, le thermodynamique sous nos latitudes, bien sûr, fonctionne un peu moins bien. Monsieur dit pas du tout, on peut en discuter. Il fonctionne pas mal quand même en montagne, soit dit au passage, dans notre région, quand vous êtes au-dessus des nuages, à une certaine altitude, pour chauffer votre maison, logiquement, il serait beaucoup mieux de vous équiper en thermodynamique, avec aussi des panneaux photoélectriques. Mais en thermodynamique, quand il fait très froid, le rendement est fantastique. Aujourd'hui, avec un panneau de 3 par 3, vous chauffez 100 mètres carrés, puisqu'ils sont sous vide et tout, le rendement est exceptionnel. Donc, voilà. Bien sûr, il y a une question, ils sont un peu chers aujourd'hui, parce qu'on en fabrique moins, parce que ça, bon, etc., etc. Et puis, troisième forme de conversion, que vous connaissez peut-être sans doute mieux, c'est le photovoltaïque. Là, on passe directement du rayonnement solaire à l'électricité. Bon, là, vous avez la carte de l'ensoleillement moyen annuel. Vous voyez que là aussi, sur la géopolitique, on voit pourquoi... Bon, bien sûr que nos pays, encore que la France n'est pas le pire, mais il y a des pays, les pays du Nord, qui sont beaucoup moins favorisés. Rappelons que, normalement, dans le solaire, on devrait en toute rigueur inclure l'énergie éolienne, puisqu'elle est aussi un résultat de l'énergie solaire indirect. Donc, si on parle normalement de manière aussi générale, d'abord, aujourd'hui, on considère qu'elles sont absolument complémentaires toutes les deux, puisque le vent souffle plutôt la nuit, le soleil est la journée. Bon, toute personne qui réfléchit sérieusement là-dessus pense que, normalement, il y a une combinaison des deux, de petites et moyennes éoliennes notamment. Hein, la vérité, ce n'est pas les très grosses comme on fabrique aujourd'hui, c'est plutôt celles un peu de la taille d'en dessous, les premières qu'on avait il y a 20 ans. Les spécialistes de l'éolien pense qu'on devrait revenir vers ces éoliennes-là, les répartir beaucoup mieux sur la surface de la planète, comme on devrait faire beaucoup de petites ou beaucoup de toits photovoltaïques, et là, on aurait beaucoup de solutions. Mais on est plutôt dans la concentration, car on est dans un monde où on veut du grand, du rendement, donc on fait des grandes centrales, des énormes éoliennes, pour des énormes capitaux, pour des énormes profits, mais on ne réfléchit pas vraiment sur la question de, vous voyez, de la répartition. C'est malheureusement un peu plus ça qui... Il faut rappeler aussi quand même qu'entre énergie solaire et hydrogène, il y a un lien absolument direct. Augustin Mouchot, à nouveau, car il avait tout prévu, cet homme, hein, et il a prévu de faire la photolyse de l'eau. Et il existait déjà des piles photoélectriques en 1878, quand Mouchot fait ses grandes démonstrations. Et voilà, aujourd'hui, on appelle ça l'hydrogène vert. Le Chili est en train de s'équiper massivement. Pour l'instant, on se heurte encore à la question du transport de l'hydrogène. Bon, il y a différents procédés qui sont en concurrence. Là, j'ai écouté des spécialistes. On peut fixer l'hydrogène sur du silicium ou sur du carbone, bon, pour le transporter de manière inerte. Mais bon, il est certain que l'hydrogène va être une solution des solutions, des questions de puissance. Quand vous avez besoin de beaucoup de puissance, ce sera hydrogène. Bon, vous savez déjà que dans le nord de l'Europe, il y a plein de camions hydrogène. C'est sûr, les camions, les tracteurs, les choses de force seront à l'hydrogène, qui est un très bon moyen de conversion. Soit dit au passage, produire de l'hydrogène à Chambéry, c'est possible aussi. Hein. Peut-être pas tous les jours, mais ça ne fait rien, puisque vous le produisez. Si vous avez trouvé le moyen de stockage, vous retombez toujours sur des questions. Bien sûr, il y a des investissements d'infrastructures. Mais n'oubliez pas que... Bon, là, je ne les ai pas mis, mais j'aurais pu vous mettre les cartes des oléoducs et gazoducs qui existent en France ou aux États-Unis. Il y en a partout. Ouais, on ne le sait pas, en général. On en parle rarement, sauf quand il y a des grèves. Bon, voilà, tout ça, c'est des questions d'infrastructure. Oui, j'ai mis en bas un site de texte qui existe à Almeria, qui est financé par l'Union européenne, dont personne ne parle jamais en France, car là, il est le site de test de l'énergie solaire, thermique et thermodynamique. Vous voyez, il est dans le sud de l'Espagne. Et voilà, on sait. Alors, il y a deux filières, effectivement, très vite dans le solaire. Il y a, avec deux précurseurs français que personne ne connaît. Donc là, ou très peu de gens quand même. Edmond Becquerel, ça c'est pas moi, c'est Daniel Linco qui est spécialiste du photovoltaïque, est quand même assez peu connu. Oui, certains peut-être le connaissent, mais il a découvert l'effet photovoltaïque. Et Augustin Mouchot, dont j'ai écrit la première biographie. Bon, je parlerai après de sa biographie. Becquerel, voilà, lui c'est 1839, sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons solaires. Bon, lui il a juste découvert qu'il se passe quelque chose. Il est loin d'une application. Augustin Mouchot, sa première communication, c'est 1864. Ce n'est pas tout à fait l'appareil qui est dessous. Lui, il va aller beaucoup plus loin dans les applications concrètes. Il va même se concentrer sur elles. Moi, j'ai rajouté, les deux précurseurs sont quand même largement oubliés. Donc, l'essor du photovoltaïque, juste pour se remettre, c'est 1954, la première cellule. Elle a un rendement de 6%. Aujourd'hui, donc, vous voyez, ça, j'ai repris de Daniel Linco, sa leçon au Collège de France que je vais citer après. 2020... On s'approche des 27%. Daniel Linco considère qu'aujourd'hui, on est au maximum théorique. Voilà. Déjà en laboratoire, ils ont fait. Donc c'est 28 et quelques pourcents. Ça a été calculé mathématiquement. Ne me dites pas comment et pourquoi. Mais on est au maximum. Donc actuellement, les cellules sont à plus de 20% de rendement. 23, 24, si vous mettez un peu plus d'argent. Bon, dans quelques années, elles vont être à 25. Voilà. Quand on dit 20% de rendement, donc c'est 20% du rayonnement solaire transformé directement en électricité, sans aucun mouvement. Voilà. Pendant combien de temps? On vous les garantit 25 ans. La réalité, c'est qu'au bout de 40 ans, il y en a beaucoup qui fonctionnent encore, un peu moins. En Afrique, elles fonctionnent parfaitement parce que le rayonnement solaire est très très fort. Donc là, on a plein de témoignages, il suffit d'y aller, de connaître des gens. Monsieur Jeslinka, qui a été un grand précurseur, qui a fait le premier raccordement en France d'une installation de production photovoltaïque au réseau, il a des panneaux, il en témoigne souvent, qui datent de 1979 et qui fonctionnent encore sur sa ferme. Donc vous voyez, là aussi, peut-être qu'il y a vous allez baisser, vous allez être à 80, vous allez peut-être à 15% de rendement. Mais on retombe toujours dans le fait que vous avez 15% de rendement de quelque chose qui est gratuit, éternel. Bon, enfin, peut-être que ça ne vous gêne pas énormément, notamment en individuel. Donc ça, c'est le photovoltaïque. Je ne ferai pas toute l'histoire son évolution. Et la filière thermodynamique, donc on peut dire, elle, dès 1869, ou 1878, le livre d'Augustin Mouchot, c'est 1869, l'exposition universelle 1878. Eh bien là, elle a prouvé son fonctionnement. Là, j'ai mis une photo de Schumann, dont je dirai un mot peut-être après, si j'ai le temps. En Égypte, c'est une installation qui sera installée en 1914. C'est la première grande centrale, la centrale de Mehadi, près du Caire. Donc elle produit, à l'époque du pompage de l'eau, beaucoup moins cher que le charbon. Elle va disparaître dans la Première Guerre mondiale. Il va mourir et il va être largement oublié, même si dans les encyclopédies, on trouve sa mention en général. Les Allemands s'en souviennent plus. La France, voilà, bon, il est quand même assez largement oublié. En dessous, je mets un exemple de ce donc, centrale à concentration. On appelle ça le CSP, Concentration Solar Power. Voilà. Peut-être on pourra, ou si vous voulez avoir des questions, tout cela, je l'ai déjà dit, s'inscrit dans une filière qu'on peut appeler, au 19e siècle, ils ont commencé à appeler ça la récupération des chaleurs perdues. Bon, c'est un mot un petit peu étrange, mais effectivement, donc ça peut être des chaleurs naturelles. Aujourd'hui, on parle de chaleurs fatales. Hein, l'ADEME appelle ça les chaleurs fatales, c'est les chaleurs produites par l'industrie qu'on perd. Vous savez peut-être qu'un moteur ou tout procédé industriel, en général, il n'utilise que 40% de l'énergie. Enfin, il n'y a que 40% de sa consommation énergétique qui est utile. Il y a 60% qui sont rejetés en chaleur, que ce soit dans les aciéries, dans tout. Donc l'ADEME a calculé que si on récupérait toutes ces chaleurs, ce serait l'intégralité de la consommation de l'industrie française. Elle a chiffré, il y a 7000 sites en France, sites industriels, exclus le nucléaire. Parce que le nucléaire à lui seul, je vous rappelle qu'il rejette de l'eau chaude, vous le savez, dans les fleuves. Au début, quand on a construit les centrales, on avait dit « on va la récupérer ». Puis EDF a dit « non, mais bon, des fois, elle pourrait être contaminée ». Ils n'ont jamais voulu qu'on récupère la chaleur. Elle est perdue. Mais parce qu'il y aura besoin de moins de centrales, sinon c'est trop, hein, ça sera trop. C'est stupide, bon, c'est comme ça qu'Espul s'est créé dans la région Rhône-Alpes. Ils avaient travaillé pour récupérer la chaleur du Bugey. Ils devaient faire un réseau de chaleur jusqu'à la ville. Au dernier moment, EDF a dit non, finalement, je n'avais plus rien à faire. Alors, ils ont continué à travailler sur les énergies renouvelables. Ils sont devenus la principale association pour la région Rhône-Alpes parce qu'ils avaient... Voilà, donc, la chaleur perdue, là, on peut rentrer dans un long débat. Il y a des start-up qui se créent actuellement, beaucoup, parce que là, on retombe sur chaleur perdue, par exemple, des data centers. Donc, c'est énorme, hein, actuellement. Bon, évidemment, quand je vous dis ça, il faut toujours rester dans les mêmes modes de raisonnement. Un spécialiste va me dire, monsieur, c'est ridicule l'électricité que ça fait, ça va peut-être... Bon, c'est toujours pareil, dans ces petites puissances, il faut en récupérer beaucoup. C'est comme cueillir plein de petites fleurs sauvages. C'est comme la cueillette par rapport à l'agriculture intensive. Moi, c'est maintenant un peu mon image. C'est-à-dire que si vous mettez partout de la récupération de chaleur, à la fin, vous aurez une quantité énorme. Mais effectivement, si vous mettez une seule centrale nucléaire, vous n'avez même plus besoin de vous poser la question de la récupération de la chaleur, vous laissez les fenêtres ouvertes. C'est d'ailleurs un petit peu la vision qu'on a dans notre société. Hein, je vous rappelle que dans les années 80, on avait trop d'électricité en France, on n'isolait rien pour ça. EDF avait trop, on avait trop. Bon, maintenant, on va faire les EPR pour continuer dans la même... Enfin, quand vous vous placez dans ces technologies-là, nécessairement, au départ, vous avez tellement que vous dites « c'est plus la peine de faire... » Allez, c'est champagne, quoi. C'est open bar. Voilà. Bon, c'est une autre manière de réfléchir. C'est surtout ça, hein, moi, que... Alors, aujourd'hui, je veux quand même le dire, c'est très important, on est à un optimum technique, c'est pas moi qui le dis, ce sont vraiment des spécialistes, dans le photovoltaïque, je viens de le citer, c'est Daniel Lincoux, mais aussi dans l'éolien, je m'engage pas sur ce, mais je veux citer Philippe Bruyère, que j'ai invité une fois ici à Chambéry, qui a fait, à mon avis, la meilleure thèse de loin actuelle sociotechnique sur les problèmes des énergies renouvelables. C'est un monsieur qui a travaillé pendant 20 ans dans ce domaine, qui est un ancien ingénieur, il a fait la thèse au moment de sa retraite. C'est très précis. Et lui aussi, j'ai juste repris une slide, il démontre qu'aujourd'hui, il considère qu'on est à l'optimum technologique des éoliennes. C'est-à-dire qu'on sait faire des éoliennes pour chaque tranche de vent. Elles transforment 80% de la force du vent en électricité. Comme Lincoln, il a eu la même expression, ça m'a frappé, il a dit, il y a 30 ans, on n'en aurait jamais rêvé. On ne pensait pas que c'était possible. Ben si. C'est-à-dire que technologiquement, ces gens-là vous disent, mais c'est incroyable, on a fait quelque chose, nous on en rêvait quand on était jeunes, c'est là, et le monde ne le sait pas, la société ne l'utilise pas assez. Alors pareil, ça n'empêche pas Philippe Bruyère d'être favorable. Lui, il a des éoliennes de moyenne puissance. Hein, il pense que les trop grandes, bon, etc., etc. Il a, pour vous montrer Voilà, tout ce développement du solaire thermique, la suite de Mouchot quand même. Quelques images, bon, voilà, des années 1830-1917 en bas, c'est Schumann, et les années 70, si on y vient, si on peut un peu les évoquer. Alors, j'avance très vite, je ne sais même plus à combien j'en suis. Je regarde un petit peu. Très... Ouh là là. Bon, oui, vous avez... je dis quand même, bon, très rapidement, mes principaux arguments. Après, on verra si on peut parler d'autre chose. Alors, c'est la solution. Bon, parmi les éléments de preuve, bon, la question de la ressource solaire, je l'ai déjà évoqué. L'optimum technologique, j'ai déjà évoqué. On va évoquer très vite le coût, l'essor démocratique, le fait que bon, la justice énergétique. Bon, ça, c'est pas moi qui dis, mais je voulais aussi vous montrer quelques ressources sur Internet si on les cherche. Bon, ça, c'est France Nature Environnement. Bon, alors, vous allez me dire, oui, c'est une association environnementale, c'est vrai. Mais elle dit quelque chose que tous les spécialistes savent. Hein. L'énergie solaire, en un an, représente 10 000 fois la consommation mondiale d'énergie. Bon, en une minute, ce qui arrive sur la Terre en rayonnement solaire, c'est plus que tout ce que l'humanité a besoin. Bon, ça, si vous ne le savez pas, je rappelle que dès Augustin Mouchot, on le savait. Hein. Bon, donc passons. Daniel Lincoux, donc professeur au Collège de France, l'énergie solaire pourrait dès aujourd'hui fournir toute l'énergie nécessaire à la surface de la planète. Ça ne souffre aucune discussion, aucune contestation. C'est un fait scientifique. Donc Lincoux, si vous cherchez sur Internet, vous verrez sa leçon en détail. Elle est sur YouTube facilement. Donc c'était il y a 2 ans. Voilà, j'ai gardé, je lui ai emprunté comme slide celle-ci, par exemple, puisqu'on retrouve la même démonstration qu'Augustin Mouchot. À l'échelle humaine, l'énergie solaire, à condition de savoir l'utiliser, c'est quelque part illimité. Oui. Donc là, lui, il s'est amusé à faire le calcul. Dans l'espace, ce qui arrive pour la consommation de la Terre, il suffirait d'un carré de 110 par 110. Sur la Terre, il faut un carré de 650 km par 650 km, qu'il a reproduit au milieu du Sahara. Si vous avez des panneaux photovoltaïques là-dessus, c'est toute l'électricité qu'a besoin la planète. Oui, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Bon, et donc évidemment, après, il montre que si vous le répartissez un peu à la surface du monde, bon, c'est des très petits carrés. Hein. Aujourd'hui, relier tout ça par des câbles électriques, on sait le faire. On le fait pour l'Internet. Bon, après, géopolitiquement, on n'a peut-être pas envie, ça c'est un autre problème. Mais si l'humanité disait, à partir d'aujourd'hui, nous vivons en partageant l'électricité entre tous, c'est un bien commun, nous créons, nous tirons les câbles et tout, on le fait demain, l'énergie sera gratuite pour tout le monde sur toute la surface de la planète pendant toute sa vie. Alors vous allez me dire, ça y est, c'est l'utopie. Mais non, c'est pas une utopie, c'est une réalité technologique. Hein. Bon, voilà. Ça, donc évidemment, Daniel Lincoux met cela en avant. Bon, je passe. Rappelons qu'au niveau local, j'ai voulu tout de suite mettre ça, parce qu'il avait aussi cette slide pour rappeler. Et lui, il me dit, j'espère que dans 20 ans, quand on photographiera du ciel une ville française, on verra surtout des panneaux photovoltaïques. Voilà. Bon, dans les cadastres solaires, il y en a plein qui sont faits par les instituts. Donc aujourd'hui, quand on photographie une ville, en général, il y a 2-3 toits équipés. La logique voudrait que tous les toits qui sont en jaune, là, soient équipés. S'ils sont tous équipés, il n'y a plus besoin d'EPR. Hein. C'est bien là un petit peu le problème. L'énergie solaire donc doit devenir le moteur de la transition. Bon, voilà. Je n'ai pas le temps de me développer, mais Daniel Lincoux n'est pas le premier à dire ça. Il faut quand même peut-être aussi le savoir. Bien sûr, Hermann Scher des années 2000. Plus loin, l'Américain Amory B. Lovin, qui, moi j'aime bien, il est attaqué aujourd'hui par certains, mais... sa vision, c'était de dire, voilà, il y a deux chemins. Vous voyez, on peut aller vers deux types de sociétés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes sociétés. Il y a beaucoup d'autres conséquences que simplement la fourniture d'énergie. Alors là, on tombe plus dans l'utopie politique, peut-être. Voilà. On doit dire ça. Il y a des faux débats dont il faut que vous... J'espère vous retenir. Premièrement, l'impact environnemental des panneaux solaires. Bon, j'ai pris ça sur Greenpeace. Vous allez me dire, ah, c'est Greenpeace. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que Greenpeace qui le dit. Il faut rappeler que les panneaux solaires n'utilisent aucune terre rare, qu'ils sont simplement du silicium, que le silicium est réparti à toute la surface de la planète. Certes, la purification du silicium est un peu polluante, mais c'est Daniel Lincoux aussi qui le dit. S'il a travaillé sur les panneaux silicium, c'est parce que c'est du sable. Il y en a des déserts entiers. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Et le silicium, un panneau solaire est recyclable. Le silicium, donc à 98%, l'ensemble du panneau, puisque c'est du verre et du métal, et le silicium... 4 fois de suite peut refaire des cellules. Quand on a dit qu'elle durait 20 à 25 ans, 4 fois 25 ans, vous voyez, ça fait déjà un siècle. Donc vous voyez que tous ces arguments qu'on entend souvent sont absolument inexacts. Il n'y a pas que Greenpeace qui le dit, puisque EDF le dit aussi. C'est exactement les mêmes mots. Recyclable, eux, ils disent 94%, le verre, l'aluminium, le cuivre, le silicium est recyclable jusqu'à 4 fois pour fabriquer de nouvelles cellules. Donc vous voyez, c'est pas des écologistes, hein, c'est EDF. Donc ça, c'est très important parce que dans les médias, on entend tout le temps terres rares, etc. Non, les terres rares, c'est pour les téléphones hein, que ça pose des problèmes. Le solaire thermique, j'en discute même pas. En France, presque personne n'en parle. Donc il y a bien un réseau de la chaleur et tout, mais 28 mars 2024, j'ai pris ça, donc c'est très très récent, en Allemagne, la plus grande centrale solaire thermique, pas photovoltaïque, hein, thermique du pays, alimentera un réseau de chaleur dans la Saxe. 41 mégawatts, 65 000 m² de capteurs, on la voit en photo. Donc les Allemands, eux, considèrent que récupérer la chaleur du soleil est intéressant. Vous voyez qu'il y a comme... Oui.
Au Danemark.
Au Danemark aussi.
200 000
mètres. Oui, tout à fait, oui, voilà. Et donc le Danemark est pourtant pas beaucoup plus ensoleillé que la France. Bon, on voit que j'avais déjà parlé de la chaleur fatale, je vais très vite. Vous trouvez l'ADEME, l'Agence de la maîtrise énergie, a calculé ça. Comme je vous l'ai dit, toute la chaleur perdue par l'industrie suffirait. Donc 20% de l'énergie totale consommée dans notre pays, c'est l'industrie. Ces 20% peuvent largement être fournis par la récupération de chaleur. Donc c'est quantifié par l'agence du gouvernement. Hein. C'est... Bon, néanmoins, voilà. Bon, voilà, on peut discuter sur les termes. Vous voyez, les Anglais, ils parlent de waste heat. Donc c'est aussi un... Bon, là, je trouve que moi, je m'intéresse beaucoup aux termes, parce que quand on dit chaleur perdue, chaleur fatale, je n'aime pas du tout, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est des chaleurs naturelles et artificielles, puisque l'énergie solaire, c'est la première et la principale des chaleurs naturelles. Bon, cette technologie, c'est la même que celle d'Augustin Mouchot. On n'y reviendra peut-être pas, mais voilà, je l'ai repris du fascicule de l'ADEME. C'est ce qu'on appelle un cycle, des moteurs ORC, Organic Rankine Circle, un cycle organique de Rankine, c'est-à-dire que vous avez une source chaude, une source froide, puis vous utilisez un gaz qui se détend, hein, il se transforme en gaz, puis il se retransforme en liquide. Exactement comme dans votre réfrigérateur, mais à l'inverse. Dans le réfrigérateur, c'est parce qu'il il est compressé, donc c'est la compression qui lui fait changer d'état et qui fait qu'il absorbe les calories et que vous avez du froid dans le réfrigérateur. Hein. Voilà. Donc là, dans le cycle de Rankine, c'est comme dans les camping-cars, de ce que j'ai lu, la seule société qui exploite c'est Electrolux, toujours, et les camping-cars, là, c'est un fluide de l'ammoniac en général qui circule, mais sans compression. Voilà, bon. On peut combiner les deux, compression plus voilà. Là, c'est... Les critiques, les inquiétudes sur l'énergie solaire, vous connaissez peut-être, ou vous devez connaître, sinon, l'association Négawatt. Désormais, le mot est rentré comme un mot officiel, alors qu'avant, elle a été complètement blacklistée, bien qu'elle existe depuis très longtemps. Elle est composée de polytechniciens, d'ingénieurs très pertinents dans le domaine des énergies. Elle a montré depuis longtemps, là, je cite un communiqué de presse du 31 janvier 2024, qui critique beaucoup la loi sur la souveraineté énergétique qu'on attend. Voilà, donc c'est pour montrer qu'ils sont... Eux, ils ont trois piliers hein, qui se combinent très très bien. La sobriété, donc ça correspond, on peut dire, à une notion de décroissance ou de limiter les consommations d'énergie. L'efficacité, oui, parce qu'en fait, on en gaspille énormément. Là, on a encore beaucoup de progrès. Bon, ils se font, mais quand on a du nucléaire, on gaspille complètement. Vous savez que les pertes en ligne en France, c'est quand même 8%. Dans le Sahel, ça atteint 30 à 40%. C'est-à-dire que tirer des lignes haute tension en Afrique, c'est absolument stupide. Ça, tout le monde le savait. Par contre, vendre des lignes haute tension, c'est intéressant. Mais par contre, d'un point de vue énergétique, c'est absolument ridicule. Quand il fait chaud, l'électricité se perd. Bon, vous voyez... Enfin, passons. Donc, l'efficacité est renouvelable, les énergies renouvelables. Donc, eux, ils pensent que sur ces trois piliers, voilà, c'est eux qui le disent... Pour vous dire que je ne suis quand même pas le seul, c'est pas que moi qui... ils disent que c'est un fait éminemment politique, l'énergie. Les débats scientifiques sont là, mais l'orientation, elle vient d'autres secteurs. Voilà, enfin, elle vient du débat public. Et question que vous vous posez, est-ce que l'éolien et le photovoltaïque peuvent remplacer les 17 réacteurs nucléaires de la France ? C'est pas moi, hein, c'est Négawatt. Alors, allez critiquer leur analyse, je ne sais pas. Eux, ils considèrent que oui... à l'horizon 2025, l'éolien et le photovoltaïque pourraient représenter 25% de la productivité française, un niveau presque atteint en Allemagne, en Espagne, au Portugal, largement dépassé au Danemark, qui ne remet nullement en cause la stabilité du système électrique. Aujourd'hui, tous les arguments qui, il y a quelques années encore, étaient vrais, est-ce que ça va pas le réseau va s'écrouler, etc., etc., sont résolus techniquement. Hein. Par les questions de stockage, oui, peut-être monsieur, si vous... Enfin, moi, c'est ce que je lis. Les spécialistes l'affirment, il suffit de lire. Bon. Voilà. L'hypothèse d'un basculement massif vers l'électricité peut néanmoins être étudiée. Donc là, même avec 20 millions de véhicules électriques, parce que là on dit souvent avec les véhicules électriques tout va exploser, non, Négawatt l'a calculé, en 2040 ce serait possible. Donc en fait c'est une question de volonté, voilà. Alors les véhicules électriques, il y a quand même les batteries au lithium, ça c'est une ressource plus rare, ça a une pression qui est réelle. Mais quand on parle de ça, moi je dis toujours, oui puis la pression du fossile, bon, enfin passons. Vous irez, si vous ne connaissez pas leur site, ils ont un site spécial où ils répondent à des questions qui est très bien fait, ça s'appelle Décrypter l'énergie. Donc voilà, la question, est-ce qu'il est possible à 100% d'alimenter aujourd'hui la France ? Oui. Je voulais juste aussi dire qu'il y a quand même beaucoup de signes, je pourrais vous montrer plein de choses qui montrent que malgré tout ça évolue. Hein. Voilà, là, c'est pas moi non plus, c'est le communiqué de presse du 28 mars d'Enedis et de la surveillance de l'électricité renouvelable installée en France. Vous voyez la progression depuis 2002, voilà. 30% de la consommation d'électricité en France au cours de l'année 2023 est quand même venue du renouvelable. C'est quand même énorme. C'était même pas prévu. En fait, le photovoltaïque s'installe plus vite que ne prévoit le gouvernement. Il y a quand même des acteurs qui interviennent et ils sont en train un peu d'être rattrapés dans leur agenda. Et c'est ça qui va les déranger. Parce que les centrales nucléaires ne sont toujours pas financées vraiment. Et il faudra encore 30 ans pour qu'elles soient construites, ou 20 ans à peu près. C'est en 2050 au mieux que les EPR fonctionneront. Donc on peut penser que le débat n'est pas clos. À mon avis, ils ont beaucoup de soucis à se faire avec ce qui est en train de se passer. Regardez l'évolution du prix des panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est absolument incroyable. Tous les experts, personne n'a jamais compris qu'est-ce qui se passe depuis 75. Bon, aujourd'hui, donc division par 15... depuis 10 ans, du prix du solaire photovoltaïque. Encore là, le 7 avril 2024, même les modules haut de gamme, là, vous avez les trois courbes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans le solaire photovoltaïque le moins cher, on est à 0, je crois sur les plus grosses centrales, 0,03 $ du centime du kilowattheure. C'est l'électricité la moins chère que l'humanité a jamais rêvée. Ça dépasse même l'imagination. Ça, c'est la vérité. Ça, beaucoup de gens le savent. Bon, pourquoi les investisseurs ne construisent... Enfin, il y en a qui le font. Ils ont peur de poser ça en Afrique, parce qu'ils ont peur que ce soit cassé et tout, mais ils ne peuvent faire que de l'argent. Il y a tellement d'argent qui cherche à s'investir. On ne comprend même pas. Mais ça, c'est en train de se passer quand même. Hein. Là, je vous avais fait que la France, en Australie, ils ont prévu, là, il y a déjà une des plus grandes provinces de l'Australie, d'ici 3 ans, elle va être complètement autonome énergétiquement. Donc ils ont fait la plus grande centrale thermique au monde. Hein. Elle va faire 2 centrales nucléaires. Là, elles sont en train de l'achever. C'est une centrale à concentration, plus du photovoltaïque énormément. Bon, il se passe plein de choses. Au Chili, c'est énorme l'installation aussi qui est en train de faire. Eux, ils ont des problèmes d'investissement. Mais bon, nous, on nous en parle peu. Bon, voilà. En même temps, il y a bien sûr l'aspect citoyen. Si vous vous y intéressez, regardez ce que fait Énergie Partagée. J'ai pas mis toute la carte d'Énergie Partagée. Il y a quand même plus d'une centaine en France. Si vous avez envie de faire, eux, ils sont un réseau très pertinent, très compétent, qui peut vous aider à financer une centrale pour quelques maisons, pour votre hameau, pour votre village, etc. Ils pensent qu'il faut que les citoyens s'emparent aussi de ces questions, qu'il ne faut pas... Voilà. Même si on va avoir des centrales nucléaires, en fait, en faisant ça, on aide à proposer d'autres solutions. Dans le même esprit, il y a eu cette déclaration, que vous pouvez encore, je pense, citer, puisque je crois qu'ils n'ont pas rendu public encore l'appel. Donc, Soleil Humanité aux actes citoyennes et citoyens. Donc, c'était à l'occasion du 50e anniversaire du congrès de l'UNESCO, qui avait eu lieu à Paris, donc en 1974. Et le Soleil au service de l'homme, un congrès qui avait beaucoup marqué à l'époque. Donc moi, j'ai été invité aussi. Il y avait beaucoup de spécialistes. Regardez sur Internet, vous verrez les vidéos très intéressantes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi le congrès. Donc c'était au Collège de France en ligne. Donc là, bon, l'historien, on avait 5 minutes hein, pour parler. J'ai dû être beaucoup plus concis qu'aujourd'hui. Mais il y avait tous les aspects du photovoltaïque, un tout petit peu historique et puis technique. Bon, je passe. Mais peut-être, je voulais aussi vous le montrer. Il y a un site UrWorld. In data, notre monde en data. Bon, même Daniel Linco l'utilise dans sa leçon. C'est un site incroyable, américain, gratuit. Là, vous avez une section qui s'appelle énergie renouvelable. C'est tout mis à jour en direct. Vous pourrez vous convaincre. Voilà la production solar power generation, donc d'électricité à partir du solaire. Bon, vous voyez les terawatts. Bon, je vous passe. On voit les pays. Vous voyez que les États-Unis sont quand même assez bien positionnés. Hein. Voici. La part du solaire en total de l'électricité au niveau mondial. Bon, voilà. Bon, enfin, je ne veux pas commenter, on peut tirer plein de conclusions. Voici la part du solaire dans l'énergie primaire, ce qui est autre chose. On n'est plus sur l'électricité seulement. Bon, évidemment, c'est beaucoup moindre, hein, puisque vous savez que l'électricité représente que bon, le vecteur électrique, 30% à peu près, voire un peu moins, ça dépend des pays, de la consommation totale d'énergie. Parce que dans la consommation totale d'énergie, on a les voitures, par exemple. Donc, évidemment, elles sont peu électriques encore. Donc, et puis l'industrie lourde. Mais on voit donc là le pourcentage. Vous voyez que l'Australie, elle est déjà à 6% de sa consommation totale d'énergie. Bon, dès que l'hydrogène va rentrer en ligne, ce taux va sans doute exploser, va monter. Un autre graphique qui montre comment dans la part des renouvelables et du nucléaire dans la production primaire d'énergie. Bon, ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'écartement des deux courbes. Indiscutablement, même si le nucléaire peut être une solution pour les très grandes villes, même si le débat sur démanteler les centrales est un autre débat, et quand on les a, on peut les conserver, évidemment, c'est peut-être sans doute utile pour un pays comme la France, il est évident qu'au niveau mondial, ça n'est pas une solution. Là, on le voit très bien. Là, vous avez la même chose avec les parts par pays ou par région. Donc, on a le world au milieu, la part des fossiles, du nucléaire et des renouvelables. Le vert, c'est les renouvelables. Bon, vous voyez que le Canada, il a beaucoup de renouvelables parce qu'il a beaucoup d'hydroélectricité. Et tout le rouge, c'est les fossiles. Puis le bleu, c'est le nucléaire. Pour la France, elle a énormément de bleu, comme vous le voyez. Elle est le seul pays au monde. Hein. Elle a un petit peu la Suède. Bon, voilà. Ça, c'est notre caractéristique française. Ça a été un avantage, il faut dire la vérité. Hein. Ça a été un atout. Ça nous a fait l'énergie la moins chère au monde pendant 30 ans. Il ne s'agit pas de dire que ça a été nécessairement un mauvais choix. Mais reste à savoir si c'est un choix pour l'avenir. Ça, c'est autre chose. Au niveau mondial, par contre, je suis honnête, la part du solaire, vous la voyez à peine. Je vous la mets en plus gros quand même. Il ne représente solaire plus éolien dans la part mondiale que 5, à peu près 6%. Avec l'hydro, ça fait 12%. Pour le nucléaire, ne représente que 4%. Tout le reste, c'est des fossiles. Gaz, pétrole, charbon. Bon, ça, c'est la vérité de notre monde. Voilà, ce qui est annoncé, c'est peut-être 30% de renouvelables en 2030. Il faut dire un mot, on ne va pas s'arrêter parce qu'on est déjà, je crois, on dépasse énormément le temps. Je regarde. Oui, bon, je dois vous laisser. Bon, voilà. Bon, les inégalités, quand même, voilà, je vais dire que ça. Une famille, donc 32, on consomme en gros 32 fois par an, ou le chiffre moi que je préfère, c'est en un jour, New York consomme plus d'énergie que tous les pays subsahariens, sauf l'Afrique du Sud. En un jour. En un an, eux. Bon, il faut quand même se rendre compte des... En fait, les pays qui posent un problème sur l'énergie, c'est nous. Hein, c'est pas... bon, voilà, il y a très peu d'études sur ces questions. La notion de justice énergétique, on pourrait en débattre beaucoup. La part des énergies renouvelables croît beaucoup, mais nous continuons à augmenter la part de consommation globale. Ça, c'est le vrai problème. C'est pour ça que les gens qui parlent de décroissance n'ont pas que tort, hein, bien sûr, et qu'il faudrait bien sûr limiter nos consommations. Mais néanmoins, la croissance des renouvelables, et voilà, ça, c'est aussi c'est tiré des rapports très très récents, 2024. Vous voyez que, bon, moi, je n'invente rien. Alors voilà, bon, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout ça. Bon, pour Augustin Mouchot, je vais peut-être m'arrêter pour que vous puissiez me poser des questions. Vous pourrez m'en poser. Ouais, c'est dommage si j'avais pu sauter directement à mes slides, je vous aurais. Bon. Non, mais ce que je vais quand même vous montrer des choses que j'avais, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de slides, comme vous voyez. Bon, vous voyez. Mais je vais juste vous montrer, voilà, parce que c'est l'histoire jusqu'aux années 60. Je voulais quand même un peu évoquer, parce que c'est très important, voilà, Abdou Mouni Diofo, parce qu'il est quand même très ignoré, j'ai quand même pas mal travaillé sur lui, montrer qu'en 1972, vous voyez déjà, il y avait des solutions quand même thermiques au Niger développées. Hein, voilà. Bon, elles ont dû s'arrêter. Bon, le Niger, je vous rappelle que c'est un pays qui a eu d'autres liens avec la France. Vous savez qu'en 1974, c'est l'ouverture de la première mine d'Areva. Hein, et donc, bon, ça n'a pas aidé, on va dire, à développer le solaire au Niger, malheureusement. Et... voilà. Moi, j'ai eu la chance de m'y rendre, de voir le laboratoire d'Abdou Mouni Diofo. Là, il avait construit des chauffe-eau solaires qui fonctionnent encore. Hein. Ils sont encore parfaitement performants. Bon, voilà. C'est un pays où il fait très chaud. Et il y avait déjà, voilà, beaucoup de pompes solaires. Voilà, il a été le premier à dire qu'on pouvait en Afrique faire fonctionner beaucoup de choses. Il y avait un Américain, il y avait beaucoup d'autres gens. Voilà. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Sofretes, une société française qui a été ensuite intégralement rachetée par le CEA et fermée en 1981. Donc, qui a construit des pompes solaires en Afrique, qui étaient très, très performantes. Donc là, on voit Abdou Moumouni Diofo et puis des dessins des... Et là, donc la Sofretes, voilà, elle a fait des pompes solaires au Sénégal. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez chercher sur... On a fait, donc une association, on a fait une maquette de cette pompe solaire qui est rentrée au Musée des Arts et Métiers quand même. Voilà. Et qui... Bon, alors là, il y a une thèse qui a été soutenue au mois de juin dernier, donc par un doctorant sous ma direction, sur l'histoire de la Sofretes, auquel vous la trouverez en ligne. Elle est librement accessible. Ça s'appelle « À la recherche de la chaleur perdue ». Et l'histoire de la Sofretes, elle vous expliquera en 700 pages pourquoi cette société a fonctionné très bien, était la meilleure au monde, a construit 60 pompes thermodynamiques solaires, les deux plus grosses centrales solaires au monde, et pourquoi elle a disparu en 1980, et pourquoi surtout personne ne veut en parler, pourquoi le CEA n'en parle jamais, pourquoi il a fallu beaucoup de travail d'exhumation pour, avec les témoins, avec les archives des personnes qui y ont travaillé. Pour faire cette thèse, mais aujourd'hui, bon, voilà, parce qu'évidemment, ça pose un peu des questions, pourquoi est-ce qu'on a arrêté cette technologie, voilà, qui, d'après tous ceux qui, elle fonctionnait, alors, au Sahel, hein, c'est pas pour la France, hein, je précise, c'est du thermodynamique, uniquement échangeur avec du butane, voilà. Donc, voilà, voilà, c'était pour vous montrer un peu des images de cette période. On ignore, moi j'avoue que tout mon travail a commencé quand j'ai rencontré ces gens et que je me suis aperçu qu'en 1974, ils avaient fait des pompes solaires et que j'ai même des films. Hein. J'étais là en disant, mais c'est incroyable. Quoi. Enfin, comment en 1974 ça pouvait fonctionner? Comment se fait-il que ça ne soit pas... Eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas compris pourquoi ça ne s'était pas développé. Hein. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit... enfin voilà, ce sont des gens, donc voilà, pourquoi ben, il faut lire la thèse. Il n'y a pas une réponse unique hein, et simple. Mais on va dire qu'ils voilà. avaient fait au Mexique, à San Luis de la Paz, la deuxième. Et puis à Diré au Mali, c'est la plus grande. Voilà. C'est aujourd'hui Diré au Mali. Tout a été cassé. La centrale a été en partie démontée. On ne sait pas par qui. Hein. Et voilà, je ne fais pas de la théorie du complot. Hein, ce sont vraiment des faits. Hein, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire par qui elle a été démontée. On ne sait pas. Je travaille avec un monsieur qui est originaire de Diré, hein, qui a fait les photos et tout, qui ne le sait pas non plus. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que bon, voilà, peut-être des gens ne voulaient pas. Voilà. Alors qu'à l'époque, François de Clauzet, que vous connaissez peut-être, était extrêmement enthousiaste sur le travail de la Sofretes, a écrit un article de fond que vous pouvez retrouver, qui est vraiment très intéressant, hein, et qui annonçait, vous voyez, ça n'est pas simplement une question de solaire, c'est l'utilisation des chaleurs perdues, des chaleurs naturelles. Que nous gaspillons. Et de Clauzet parlait d'ailleurs du nucléaire et disait, mais grâce à des moteurs comme la Sofretes, bon, voilà, de Clauzet n'est pas quand même un hurluberlu, voilà, même la revue Butane Propane de l'époque, voilà. Donc voilà, oui, je savais pas si je l'avais mis. Alexandre Mouton, voilà la thèse qui a été soutenue, elle se télécharge gratuitement sur Internet aujourd'hui, les thèses, hein, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un peu long, ça fait 700 pages, mais c'est une vraie enquête. Très, je pense, très intéressante. Hein, et il y a beaucoup d'archives, hein, c'est que basé là-dessus. Et il a fait un travail admirable. Voilà, des gens avec lesquels j'ai travaillé, Georges et Jeanne-Marie Alexandrov, sont aujourd'hui décédés, enfin, ils sont sous tutelle, ils ne sont plus. Voilà, et qui ont été les grands architectes, ils ont été les architectes de la Sofretes, et c'est les pionniers du bioclimatique. Voilà, je vais montrer les dessins qu'ils faisaient à l'époque, le fait qu'ils croyaient énormément dans le solaire thermique dès les années 70. Hein, et non sans raison. Voilà, bon, ah oui, ouais, non, mais bon, j'ai rajouté trop de choses. Ça, c'est Abdoulaye Touré qui est décédé, qui travaillait au Sénégal sur les fours solaires. Je pourrais vous parler longtemps de la cuisson solaire, mais on n'en finira pas. Vous dire que c'est toujours une question de choix de technologie, bon, ça, j'ai déjà dit. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Il est précisément 29, donc malheureusement on ne va pas prendre de questions. Je vous laisse peut-être une dernière minute, mais pas plus, juste pour le mot de la fin, la conclusion, le message à emporter, mais vous n'avez qu'une minute.
Le soleil, c'est l'avenir. Moi, c'est...
Merci.
C'est vraiment ce que je pense. Oui, non, je ne suis pas un doux utopiste. Je pense qu'effectivement, dans nos pays, ce ne sera pas la seule solution, mais c'est indiscutablement. Il faut répandre cette bonne nouvelle. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Et à côtoyer des scientifiques, c'est ce qu'ils me disent. Les gens comme Linco qui ont travaillé 30 ans, 40 ans là-dessus me disent... Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le photovoltaïque, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Va dans le nucléaire. » Il a eu la médaille d'or du CNRS, il a fait des cellules les plus puissantes au monde à une certaine époque, au début des années 2000. Il a créé l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France. Donc, c'est un scientifique appliqué, Daniel Linco. Mais il m'a dit, mais on dirait que les gens ne l'entendent pas et que les pouvoirs politiques non plus ne l'entendent pas. Mais quand même, je vous l'ai dit, ça commence aussi à bouger. Lisez, cherchez les syndicats des énergies renouvelables, vous verrez qu'il y a, sont des gens très sérieux. Il y a des choses qui bougent. Voilà, et peut-être qu'il faut, il faut aussi en parler plus, et puis pour espérer que ça aille plus vite. Parce que, alors c'est vrai que les panneaux, j'ai pas parlé du question de la Chine, des panneaux fabriqués en Chine, qu'on entend dans les médias tous les jours bientôt. Bon, moi je veux dire, mon point de vue, il est évidemment que si on compare ça au problème du réchauffement climatique, bon, moi je trouve que ce que fait l'Europe est absolument scandaleux, que la Chine ait subventionné des panneaux photovoltaïques. Ben pour une fois, le régime de Pékin a fait un bon choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je ne sais pas. Je vois le résultat. Je vois que les panneaux, vous savez qu'actuellement, il y en a des stocks énormes en Europe. Ils vont bientôt les donner. Ils les donnent quasiment. Parce qu'ils sont construits. Et puis que maintenant, de nouvelles générations arrivent. C'est pour ça que je vous dis aussi, équipez-vous tout de suite. Tous les spécialistes disent que ça va remonter. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une spéculation, parce que les Européens vont rentrer sur le marché, et eux, ils vont le faire vendre plus cher. Mais ils sont construits. Ils sont là. Même en Afrique, ils les donnent. Ils ont fait des usines. Ils l'ont voulu, les Chinois. On doit leur reconnaître ça. Ils ont construit 6 usines qui produisent l'équivalent de 2 centrales nucléaires chaque année de panneaux photovoltaïques. Mais c'est eux qui ont fait l'investissement. Pourquoi les Américains sont en train de faire la même chose. Les Américains sont en train de tout rapatrier la production photovoltaïque aux États-Unis. Maintenant, les Américains ont compris que ça n'était plus possible de rester à l'écart de ça. Mais eux, ils font l'inverse de ce qu'a fait la Chine. Ils ont dit, nous allons nous équiper, mais ça doit être construit sur le territoire américain. Ils ont mis 500 milliards de dollars. Et toutes les usines chinoises sont en train de se rapatrier. Vous verrez, il est prévu que dans 3 ans, les Américains soient exportateurs de panneaux. Nous... L'Europe, la France dit on va faire 2 usines. Bon, on ne joue pas dans la même cour, il faut le dire, on n'a peut-être pas les moyens d'investissement. Mais soyez sûr que dans 3 ans, les Américains vont avoir rattrapé leur retard. Donc, je veux dire, c'est pas n'importe quel pays. Pourtant, le fossile pèse très lourd chez eux. Mais voilà, Joe Biden, c'est pas par bonté de cœur qu'ils font ça. C'est qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus être à l'écart de ça. Ils vont s'équiper en voiture électrique. Et voilà, ils vont re-rentrer sur le marché. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'ils ont eu tort de laisser ce marché uniquement à un pays, certes, autoritaire, voire totalitaire, mais qui a une vision quand même sur les énergies renouvelables. Moi, j'ai travaillé sur le thermodynamique. Depuis longtemps, la Chine s'y intéresse. C'est le plus grand pollueur au monde, mais c'est aussi le pays qui a le plus conscience de ça. Et il faut arrêter de dire des bêtises. Dans tous les médias, on n'entend que ça. C'est... Bon, voilà. Équipez-vous. Si vous avez des gens, vous connaissez des gens qui ont des commerces... Je veux dire, je ne comprends pas, moi, la personne qui a un toit et qui est boulanger, etc., pourquoi il n'a pas déjà posé des panneaux solaires. Dans même pas 3 ans, 4 ans, s'il les pose lui-même, ils sont rentabilisés. Ça, c'est les chiffres. Lisez Oscar Opower, lisez toutes les sociétés aujourd'hui en France d'auto-équipement. Bon, c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était pas vrai. Mais là, actuellement, voilà, faites-le, que tout le monde le fasse. Et bon, bah déjà, on aura beaucoup plus d'énergie renouvelable et on rattrapera un peu l'Allemagne qui est très en avance par rapport à nous. Voilà, c'est. Voilà,
je me dois d'être le gardien du temps et on va vous remercier une dernière fois.
Merci à vous, Anne.
Merci. Et je suis obligé de vous exfiltrer parce qu'on est à Chambéry et à 13h30, on ne nous sert plus à manger. Tout simplement.